Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Lors de tous les possibles en Catalogne, alors que les positions des deux assemblées à Madrid et Barcelone paraissent plus que jamais irréconciliables, quelle que soit l'issue de ce bras de fer, la population catalane reste de toute façon divisée entre partisans et adversaires de l'indépendance. Au centre de Barcelone, sur la mythique place historique San Jaume, juste devant le palais de la Generalitat, un homme le constate tous les jours. Luis Villacorta Montero manifeste seul chaque après-midi depuis un mois. Cet homme de 52 ans est partisan de l'indépendance, mais tout le monde vient lui parler, quelle que soit sa position politique, comme s'il était un médiateur de fortune. Laetitia Farine est allée à sa rencontre.
Sur la place San Jaume, il est difficile de louper Luis Villacorta Montero. Assis devant la Generalitat, il porte deux pancartes. Sur la première, qui est accrochée à son cou, on peut lire « Oui, je suis catalan ». Sur la seconde, plus grande, qui est à ses pieds, il est écrit « Pays catalan, la Catalogne est une nation opprimée, aidez-nous ». Dans une pochette qu'il conserve précieusement à ses côtés, Luis a des coupures de journaux.
Avant de commencer, regardez juste ces deux images du 1er octobre quand nous avons fait le référendum que le gouvernement de Madrid a essayé d'empêcher par tous les moyens. Ces images représentent la police espagnole en train d'essayer d'empêcher les gens de voter. Je veux seulement expliquer mon point de vue. Ici, on voit sur ces images des violences policières, alors qu'aujourd'hui, ils nient ces violences.
Ces images, Luis Villacorta Montero les montre souvent aux personnes qui viennent l'interpeller. Et elles sont nombreuses à le faire, surtout les indépendantistes. Si certains vont même jusqu'à lui apporter du café et de la nourriture, la plupart prennent des photos avec lui et l'encouragent. C'est le cas de Montserrat Orcajada, 52 ans.
Cette pancarte, elle est très bien, chapeau. Je lui donne 10 sur 10. Super.
Pour cet indépendantiste de la première heure, il n'y a pas de petit acte de résistance.
Nous sommes catalans et nous luttons pour notre cause. Nous voulons une république. Nous voulons sortir de l'Espagne. Ce sont des ports fascistes qui sont en train de nous voler à main armée. Il faut que tout le monde le sache.
Avec de la peinture rouge sur son t-shirt et son visage, Luis dit vouloir dénoncer la souffrance du peuple catalan. Mais tous les passants ne sont pas de son avis et certains s'arrêtent même pour le critiquer ouvertement.
Il est complètement fou. Nous sommes à la fois des Catalans et des Espagnols. Nous sommes dans un pays démocratique comme les autres. Certains ont perdu la tête et viennent dire ce genre de bêtises. C'est incroyable. Tout ce qu'il dit, personne n'y croit. Ça me fait à la fois rigoler et enrager.
Que la suspension de l'autonomie catalane soit approuvée ou non par le Sénat, Luis dit qu'il continuera la lutte coûte que coûte.
Madrid va interdire le gouvernement de Catalogne et va prendre sa place. Et moi, je vais continuer de venir protester. Bien entendu, de manière citoyenne et pacifique, je n'insulte ni n'attaque personne. Je m'assieds simplement avec mes pancartes et ma peinture rouge et j'ai un bandeau sur la bouche parce qu'il me prive de ma liberté d'expression car le gouvernement prive le peuple catalan de la liberté de choisir s'il veut être indépendant ou non.
Sur la place San Jaume, à l'endroit où manifeste d'habitude Luis Villacorta Montero, des centaines d'indépendantistes ont pris sa place jeudi, signe que l'heure est grave.
Qui êtes-vous ?
Je suis moi.
Lui, c'est moi.
Et je suis vous.
Expliquez-vous, je vous prie.
Après les élections en République tchèque qui ont vu la victoire du milliardaire Andrej Babiš, l'extrême droite pourra bien accéder aux plus hautes fonctions au sein d'un gouvernement de coalition et notamment Tomio Okamura, ce tchèque d'origine japonaise, porte un discours anti-migrant et anti-islam. Son portrait est signé Alexis Rosenzweig.
Dès l'annonce du bon score surprenant de son parti Liberté et Démocratie Directe, qui porte aussi son nom, Tomio Okamura s'en est pris aux médias publics en particulier, dont il veut faire de la modification des statuts une priorité. Avant de devenir parlementaire il y a quelques années, c'est pourtant la télévision qui lui a permis de se faire connaître en tant que porte-parole d'une association d'agences de tourisme, puis dans une émission de télé-réalité. S'il y a une chose qu'il exècre encore plus que la presse, c'est l'islam, non à l'islam, non aux terroristes. Ce slogan aura marqué sa campagne, aussi simpliste qu'efficace, dans un pays qui ne compte que très peu de musulmans et qui n'a pas connu d'attentats islamistes. « Je suis à moitié jaune, j'ai souffert du racisme et ne suis pas extrémiste », se défend Tomio Okamura, né à Tokyo d'un père japonais, mais qui a vécu davantage d'années dans le pays de sa mère tchèque. Après avoir fait de très bonnes affaires dans le tourisme et la restauration, il se tourne vers la politique, très inspiré par le modèle suisse et ses votations, et par Marine Le Pen aussi, qui lui aurait, à l'en croire, donné plein de bons conseils en marketing politique lors de son dernier passage à Prague pour le soutenir. C'était il y a 2 ans, quand Tomio Okamura fondait son nouveau parti. Il affirmait encore à l'époque que sortir de l'Union européenne ne serait pas bon pour la République tchèque. Aujourd'hui, il voudrait un référendum sur la question. Ses adversaires politiques ont parfois du mal à ne pas rire lorsqu'il évoque par exemple l'interdiction de la charia sur le sol tchèque comme l'une de ses priorités. Ses sorties contre les Roms et contre les musulmans sont en revanche loin d'être drôles. Il a par le passé recommandé de promener chiens et cochons près des centres communautaires et de ne pas manger de kebab, car selon lui, chaque kebab acheté est un pas de plus vers la burqa dans les rues. Avec Tomio Okamura déjà pressenti pour devenir vice-président de la Chambre des députés, le niveau des débats sur le refus de réfugiés dans le pays n'est pas prêt de s'élever.
Mais qu'a bien pu faire l'Europe pour nous ?
Incapable de parvenir à un compromis, la Commission européenne a préféré reporter le vote sur l'autorisation du glyphosate. Le pesticide accusé d'être cancérigène voit sa licence expirer en décembre. Face à la pression conjointe d'une pétition citoyenne, des ONG et de certains pays comme la France, l'Europe pourrait décider de ne pas donner une autorisation de 10 ans, mais de 7, voire de 5 ans. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors comment s'expliquent les divergences d'approche entre les différents pays européens concernant le glyphosate ?
Il faut d'abord distinguer les agricultures de l'Est européen qui sont en phase de rattrapage et de modernisation et qui ont le souci de faire progresser leur rendement. Voilà pourquoi Pologne et Roumanie, pour ne citer qu'elles, soutenaient la proposition initiale de la Commission européenne de renouveler pour 10 ans l'autorisation du glyphosate. Par ailleurs, des gouvernements traditionnellement proches de l'agro-business, britanniques ou irlandais par exemple, ont également soutenu la Commission. À l'inverse, dans le camp anti-glyphosate, on trouve des pays qui utilisent les herbicides de façon assez modérée et qui ont beaucoup développé des cultures biologiques comme l'Italie ou l'Autriche. Quant à la France, qui est pourtant et de très loin le plus gros utilisateur d'herbicides en Europe, sa position anti-glyphosate s'explique plutôt par la très forte adhésion de sa population au principe de précaution.
Oui, car il faut dire que le glyphosate se retrouve au cœur d'une polémique.
C'est vrai que les expertises internationales divergent. En mars 2015, une émanation de l'Organisation mondiale de la santé, le Centre international de recherche sur le cancer, avait jugé le glyphosate comme un cancérogène probable. Coup de tonnerre dans le monde agricole, où le produit phare à base de glyphosate, leader mondial du marché depuis 40 ans, est le désherbant Roundup, produit par la multinationale Monsanto. Les écologistes du monde entier s'emparent de l'affaire et font pression sur les gouvernements. Quelques mois plus tard, cependant, le FSA, l'autorité européenne de sécurité alimentaire, dénie ce caractère cancérogène du glyphosate. Et en septembre 2016, l'OMS fait machine arrière, un de ses comités communs avec l'ONU, estimant cette fois improbable ce caractère cancérogène. De nombreux observateurs voient dans ces revirements le résultat du lobbying de Monsanto. L'agence européenne est même accusée d'avoir copié-collé dans son rapport des passages entiers d'une étude antérieure émanant de Monsanto.
Oui, et puis on peut le dire, les Français se méfient beaucoup des lobbyistes.
Oui, d'autant plus que la population agricole et rurale est nombreuse en France et que la consommation de produits frais y est importante. Or, l'Hexagone répand chaque année plus de 30 000 tonnes d'herbicides sur ses cultures, autant que l'Espagne et l'Allemagne réunies. À 1,10 kg d'herbicides par hectare, la France est très loin devant ses voisins italiens, espagnols ou allemands qui n'en déversent que 650 grammes.
Et on dit pourtant, Daniel, que l'Espagne serait un des plus gros utilisateurs de pesticides en Europe.
Oui, et c'est même de loin le plus gros utilisateur de produits phytosanitaires. Si l'on ajoute aux herbicides les insecticides et les fongicides, c'est-à-dire les anti-champignons, l'Espagne a déversé en 2015 sur ses cultures 77 000 tonnes de pesticides contre 66 000 en France, 63 000 en Italie et 48 000 en Allemagne. Les surfaces agricoles étant inégales, il s'ensuit que la France est plutôt un utilisateur modéré de pesticides avec 2,38 kg à l'hectare contre 3,2 kg en Espagne et jusqu'à plus de 5 kg aux Pays-Bas ou en Italie. Évidemment, le climat joue un rôle dans ces différences, les climats méditerranéens utilisant plus d'insecticides, les climats tempérés ou froids plus d'herbicides.
Et l'agriculture biologique, donc sans pesticides, progresse-t-elle en Europe ?
Oui, sauf au Royaume-Uni où elle stagne, ces cultures exemptes de pesticides progressent partout. Mais leur niveau de développement est très disparate. Le champion européen du bio est depuis de nombreuses années l'Autriche, où 21% des surfaces étaient cultivées en bio en 2015. Deux autres pays, la Suède et l'Estonie, sont à 17%. Parmi les pays à vaste territoire agricole, l'Italie est en pointe, avec 12% des surfaces cultivés en bio. C'est nettement plus que l'Espagne, 8% des surfaces, ou que l'Allemagne, 6%. Quant à la France, elle reste en retard avec moins de 5% des surfaces, mais son rythme de progression est élevé depuis quelques années.
Et comment expliquer ce retard français ?
Première puissance agricole d'Europe, la France a largement profité pendant des décennies de la politique agricole commune européenne qui a très longtemps, on le sait, favorisé l'agriculture productiviste. Mais les temps changent et dans quelques années, l'Hexagone devrait devenir le premier producteur européen de bio. Une place naturelle en somme pour un pays réputé pour l'excellence de ses produits.
Merci beaucoup Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
À l'heure de l'après-nucléaire, en Lituanie, la principale centrale nucléaire de type Tchernobyl est en cours de démantèlement depuis 2009. C'était une des conditions posées par l'Union européenne pour accepter l'entrée du pays dans l'UE. Mais à côté de la centrale d'Ignalina, on trouve une petite ville de 20 000 habitants, Visaginas, qui a été construite de toutes pièces il y a 40 ans pour loger les employés du nucléaire. Que va-t-elle devenir ? C'est le reportage de Marielle Vitureau.
Sur la place centrale de Visaginas, le bar rendez-vous a ouvert ses portes il y a un an et demi. C'est là qu'Irida et Sergueï aiment justement donner rendez-vous. La cuisine est simple, l'atmosphère agréable, le lieu est surtout typique du renouveau que connaît Visaginas actuellement. Irida, qui a grandi sur la côte balte, est aujourd'hui membre du conseil municipal avec le propriétaire du bar, Yevgeny Shuklin, médaillé d'argent en canoë-kayak aux Jeux Olympiques.
C'est le deuxième bar qu'il a ouvert avec un ami à Visaginas. Shuklin est le seul habitant célèbre de Visaginas à être resté dans sa ville et à encourager toutes sortes d'activités. C'est un prophète en quelque sorte.
Son mari Sergueï a lui grandi à Visaginas. Ses parents travaillaient pour la centrale nucléaire. Le couple est revenu vivre dans cette ville avec leurs quatre enfants pour une raison toute simple. Sergueï, dessinateur industriel.
Je suis revenu car j'ai trouvé du travail ici. Tout s'est combiné au mieux. On a vite trouvé un endroit assez grand pour nous loger. Le jardin d'enfants est à deux pas. Et avec toutes les activités extrascolaires, c'est la ville idéale pour élever des enfants.
Ce n'est pas uniquement Visaginas qui change, mais aussi le regard que les Lituaniens portent sur cette ville longtemps secrète. Yelena Sapoval en est le témoin. Elle a grandi à Visaginas, mais après des études pour être ingénieure en bâtiment, elle est restée à Vilnius.
Quand je suis venue à Vilnius pour étudier, mes copains se moquaient de moi. Ils voulaient attendre minuit pour voir si je commençais à briller dans la nuit à cause des radiations nucléaires. Pour eux, je venais d'une ville russe comme si c'était l'étranger. Parfois, j'ai dû vivre des situations difficiles parce qu'on me considérait comme russe. Aujourd'hui, même si Visaginas reste à part en Lituanie, les performances olympiques de Shuklin changent la donne. Et puis je le remarque, de plus en plus de Lituaniens partent y vivre.
Visagina pradėjo daugiau važiuoti lietuvių.
Le plus grand employeur de la ville reste la centrale nucléaire. Environ 2000 personnes travaillent à son démantèlement. Il devrait être achevé en 2038. Des sociétés de confection, d'ameublement s'installent dans les environs, mais cela ne suffit pas à résorber les 10% de chômage dans la région. De plus, la centrale nucléaire reste encore dans les esprits. Néringari Kachouté, une jeune photographe qui vit entre Vilnius et Visaginas depuis avril 2016, a une anecdote très révélatrice à ce sujet.
Des hommes d'affaires locaux voulaient acheter un local vétuste attenant à leur restaurant pour le transformer en salle de jeu pour les enfants. Et le vendeur a demandé un prix exorbitant à leur grande stupéfaction. Très étonnés, ils lui ont demandé pourquoi et le vendeur a répondu que si jamais la centrale rouvrait ou si on en construisait une nouvelle, tout allait à nouveau prendre de la valeur, qu'il ne pouvait pas brader. La centrale nucléaire est encore dans les mentalités.
Le metteur en scène, Jonas Tertelis, s'est immergé quelques mois dans Visaginas pour son spectacle sur la centrale et le ressenti des habitants à la fermeture de ce géant atomique. Il croit dans le futur de la ville.
À Visaginas, on parle souvent de développer les infrastructures touristiques. C'est aussi un bon endroit pour les résidences d'artistes ou les conférences. La nature autour de la ville est superbe et toute proche. Pendant longtemps, la centrale a nourri la ville, mais aussi le pays entier avec les revenus qu'elle générait. Pour moi, il serait temps que ce lien s'inverse.
À Visaginas, les habitants parlent majoritairement russe et même s'ils sont tous citoyens lituaniens, le conflit en Ukraine a de nouveau posé la question de leur loyauté. Pourrait-ils nourrir des aspirations séparatistes et pro-russes ? Néringari Kachouté rejette cette éventualité en bloc.
Beaucoup de gens sont partis en Russie à la fermeture de la centrale, mais ils sont revenus depuis. Ils ont compris qu'ils étaient devenus européens et ne pouvaient plus vivre là-bas. Il y a certainement des personnes dans cette ville qui nourrissent des sentiments antinationaux, mais ce n'est pas uniquement le problème de Visaginas. On en trouve dans tout le pays. Je dirais même qu'au contraire, à Visaginas, les gens ont un certain niveau d'éducation et je suis sûre qu'ils sont encore plus résistants à toute forme de propagande.
Visaginas attend désormais son heure. Développement du secteur touristique, des infrastructures sportives, utilisation des systèmes de refroidissement de la centrale pour installer des serveurs de données des géants de l'informatique ou développement d'un parc technologique, la ville doit faire des choix qui auront à terme une répercussion nationale.
Consonne.
Voyelle.
U. Consonne.
S. Voyelle.
E.
Voyelle.
E.
Pour quelques mois, le célèbre tableau de Magritte, Ceci n'est pas une pipe, fait son retour à Bruxelles au Musée des Beaux-Arts. Une œuvre emblématique qui annonce toute la problématique de l'art contemporain. Quelques explications avec Lakshmi Lotha.
Ceci n'est pas une pipe, mais ceci est bien un retour au pays natal pour ce tableau de Magritte, dont le véritable titre est « La trahison des images ». L'original se retrouve donc pour 4 mois au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Il est d'habitude exposé à Los Angeles. Les Belges sont ravis et le musée a décidé d'ouvrir 7 jours sur 7 pour permettre à tous de venir admirer ce symbole du surréalisme, encore objet de réflexion et d'interprétation en tout genre aujourd'hui. Le tableau date de 1928. Il représente une pipe avec cette légende « Ceci n'est pas une pipe ». Magritte avait un jour expliqué « Pouvez-vous fumer cette pipe ? Pouvez-vous la remplir de tabac ? Non. Eh bien, vous voyez, ceci n'est pas une pipe. » Magritte a inspiré d'autres artistes avec ce tableau comme le français Ben et son œuvre « This is Art » ou encore le dessin de Kaysaring « This is not a pipe », des tableaux que l'on peut voir à l'exposition « Magritte et l'art contemporain » en ce moment au Musée des Beaux-Arts. Pour ceux qui souhaiteraient encore vérifier s'il s'agit bien d'une pipe ou non, l'exposition se tient jusqu'au 18 février prochain.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.
Pour nous écrire, accent au pluriel.europe@rfi.fr.